France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, nous sommes le jeudi 15 avril. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, 2 ans d'un chantier titanesque. Le 15 avril 2019, la flèche de Notre-Dame s'effondrait dans les flammes d'un violent incendie et c'est tout le quartier qui est à repenser. Reportage dès le début du journal et on en parle à 7h50 avec votre invité Léa Salamé.
Comment va Notre-Dame de Paris? Où en sont les travaux? Seront-ils terminés en 2024 comme l'a demandé Emmanuel Macron? On fait le point ce matin avec le général Jean-Louis Georgelin qui préside l'établissement public chargé de la restauration de la cathédrale. Sa parole est rare, il sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, on passe aux autres titres Agnès.
Les restaurateurs notamment espèrent obtenir un calendrier de réouverture après la réunion ce soir à l'Élysée. Des bus dans les rues de Pékin pour accélérer la vaccination en Chine. Le professeur Kayat, Dr Jekyll et Mr Hyde de la lutte contre le cancer. Et puis qui veut acheter un petit bout du patrimoine footballistique français? Les Verts sont à vendre.
À 8h20, le grand entretien du 7-9 avec le député du Nord, coordinateur de la France Insoumise, j'ai nommé Adrien Quatennens. Vos questions pour dialoguer avec lui au 01 45 24 7000, le standard est ouvert.
France Inter. Retrouver l'acoustique de Notre-Dame, c'est le chantier dans le chantier. 2 ans donc après l'incendie de la flèche et l'effondrement d'une partie de la voûte de la cathédrale sur l'île de la Cité. Les échafaudages témoignent des travaux de sécurisation et en laboratoire, 175 scientifiques mandatés par le CNRS et le ministère de la Culture travaillent à rendre Notre-Dame sa sonorité si singulière. Reportage de Benjamin Hilly.
Faites-moi entendre la voix de Notre-Dame, s'il vous plaît.
Oui.
Au tableau, un croquis de Notre-Dame et des annotations que seul Brian Katz peut comprendre. Ce chercheur en acoustique au CNRS nous reçoit dans son laboratoire sur le campus de Jussieu à Paris et il nous présente une partie de son travail.
On a recréé un concert qui avait lieu dans la cathédrale, je crois en 2013, avec la capacité de changer la position dans l'église pendant le concert. Par exemple, proche de l'orchestre, écouter le même concert, mais au dernier rang. Notre mission, c'est de travailler un peu comme un consultant aux architectes sur les impacts acoustiques des choix architecturaux et de fournir des avis sur comment mieux respecter ou comment mieux retrouver l'acoustique avant l'incendie.
S'il y avait un mot pour qualifier cette sonorité,
grandiose.
Reportage de Benjamin Hilly et le chef de l'État, accompagné d'Anne Hidalgo et de Roselyne Bachelot, dont ce sera la première sortie officielle depuis son hospitalisation pour Covid. Ils doivent donc visiter aujourd'hui le chantier de Notre-Dame. Au même moment, le Conseil de Paris doit lui se prononcer sur le projet de réaménagement du quartier, car la municipalité voudrait profiter des travaux pour repenser ce secteur, presque exclusivement livré aux touristes. Mathilde Dehimy.
Il faut se souvenir de Notre-Dame avant l'incendie, un parvis vide au courbuisson de buis, quelques arbres sur les côtés et une perspective cassée par les longues queues de touristes pour rentrer dans la cathédrale ou les tours. Dans le dos, la préfecture de police. Sur le côté, l'Hôtel-Dieu, hôpital en cours de restructuration. Un quartier figé, trop exclusivement dédié au tourisme, selon les mots de la mairie de Paris, qui veut donc refaire une place du quotidien pour touristes et parisiens. L'appel à projet concerne la gestion des flux sur le parvis, les jardins autour et derrière Notre-Dame, mais aussi les sous-sols, la crypte et le parking souterrain, qui pourraient disparaître pour laisser place à un accès ouvert depuis la Seine. Il faut aussi mieux accueillir les touristes. Le projet prévoit une bagagerie et des toilettes à proximité. Budget prévu 50 millions d'euros liés au fonds Notre-Dame de la ville. Lancement de la consultation ces prochains mois, après définition du cahier des charges avec l'État et le diocèse. Des citoyens tirés au sort seront aussi consultés.
Et rappelons qu'à 8h10, le général Georges Lain, chargé de la restauration de Notre-Dame, sera l'invité de Léa Salamé.
Il est 7h04, peut-être le bout du tunnel, Agnès, pour les restaurants, les bars, les lieux culturels fermés depuis plus de 5 mois.
Lors de sa dernière intervention, il y a 15 jours, Emmanuel Macron a en effet fixé à mi-mai le début de la réouverture progressive de ces lieux sous cloche. Pour préciser le calendrier et surtout les modalités, le chef de l'État réunit aujourd'hui à 18h à l'Élysée pas moins de 10 ministres. Pour Thibaut Fourdrinier, propriétaire de la salle à manger à Marc-en-Barœul, près de Lille, il faut que le gouvernement présente des perspectives claires pour les restaurateurs.
Il faut une date fixe de réouverture
qu'on nous dise au 15 mai, au 15 juin, ou au 15 juillet, ou au 15 septembre, peut-être, je sais pas, mais qu'on ait un visuel, qu'on puisse se projeter. C'est ça le problème. La dernière fois, on a rouvert, ils nous ont dit le jeudi pour ouvrir le mardi d'après. C'était une courte fermeture de quelques mois, donc la filière a pu se remettre en place. Là, on est quand même fermé depuis le mois d'octobre, où on avait une activité relativement intense. Là, on a une activité arrêt dans les restaurants. Quand ça va repartir, c'est pas que les restaurants, c'est toute la filière qu'il faut remettre. C'est les pêcheurs, c'est l'agriculture, c'est les abattages, c'est toute la chaîne alimentaire pour avoir des produits, quoi.
Un propos recueilli par nos confrères de France Bleu Nord. Et la pression reste forte dans les hôpitaux avec 5902 malades Covid en réanimation, 43500 nouveaux cas de contamination en 24 heures et 297 décès à l'hôpital. Le bilan global de l'épidémie devrait atteindre ce soir les 100 000 morts en France, troisième pays le plus endeuillé en Europe après la Grande-Bretagne et l'Italie. L'Europe toujours divisée sur l'utilisation des vaccins. Le Danemark a décidé hier de ne plus utiliser du tout le vaccin AstraZeneca. La France utilisera le vaccin Johnson & Johnson pour les plus de 55 ans dès le feu vert obtenu par l'Agence européenne du médicament. Et de nouvelles commandes ont été passées auprès de Pfizer avec au moins 7 millions de doses supplémentaires livrées au deuxième trimestre. Et puis en Chine, les autorités ont décidé d'accélérer la campagne de vaccination qui patine entre les déclarations polémique sur le manque d'efficacité des vaccins et la quasi-disparition du virus dans le pays. Les Chinois boudent les centres médicaux. Alors des bus dédiés à la vaccination se sont installés dans les rues les plus fréquentées de la capitale. Reportage à Pékin de Dominique André.
Scanner le QR code pour une vaccination sur place, explique une infirmière à un homme qui s'est approché de l'énorme bus garé au pied de la cité interdite. Les candidats à la vaccination se feraient un chemin dans la foule des touristes chinois qui vont visiter l'ancien palais impérial. La vaccination est faite à l'abri des regards, à l'intérieur du véhicule qui est équipé d'un système de reconnaissance faciale. Shen Xiaokun, un livreur, en sort pour remonter immédiatement dans son triporteur.
C'est rapide, ça prend 10 minutes. Après l'injection, je suis resté une demi-heure en observation. C'est très pratique, c'est près de chez moi. La première dose, je l'ai eue dans un cabinet médical. Là, je viens d'avoir la deuxième.
Un volontaire est là, en renfort de l'équipe médicale, il donne des conseils à la sortie.
Cet après-midi, vous venez avec votre carte d'identité. Après la vaccination, pendant 24 heures, vous ne prenez pas de douche, pas d'alcool. Il faut boire beaucoup d'eau chaude.
Des bons de réduction dans les magasins sont aussi offerts aux personnes vaccinées. Le rythme des vaccinations est source de grande inquiétude, admettaient le mois dernier les autorités sanitaires. Avec ces mesures d'incitation, la Chine espère avoir vacciné 40% de sa population d'ici fin juin. Pékin, Dominique André, France Inter.
L'heure est venue de mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique. Joe Biden a confirmé hier soir le retrait des troupes américaines d'Afghanistan d'ici au 11 septembre prochain. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30.
Il est 7h08, retour en France, Agnès, avec la double casquette du professeur Kayat.
Comte de la lutte contre le cancer, il a notamment fondé et dirigé l'Institut National du Cancer, lancé le premier plan cancer et soigné de nombreuses personnalités. Mais David Kayat est aussi conseiller pour le cigarettier Philippe Maurice, comme l'a révélé hier le quotidien Le Monde, avec des prises de position parfois assez surprenantes, Thibault Lefèvre.
Pour Philippe Maurice, David Kayat, c'est un gros poisson. La première réaction du président du Comité national contre le tabagisme, Yves Martinet, en dit long sur l'ampleur du conflit d'intérêts.
David Kayat, c'est une belle prise, entre guillemets, dans la mesure où il s'agit d'un oncologue qui est extrêmement médiatique. C'est quelque chose qui est surprenant et je dirais même décevant.
L'idée défendue dans ses livres par David Kayat et donc par Philippe Maurice, c'est qu'il vaut mieux inhaler de la fumée de tabac chauffé plutôt que d'arrêter brutalement la cigarette. Un discours sur la réduction des risques donc, qui sert évidemment les intérêts de l'industriel.
Pour Philippe Maurice, les enjeux sont majeurs dans la mesure où il s'agit de sa survie. Les ventes de tabac fumé diminuent dans le monde. L'objectif est de remplacer le tabac fumé par le tabac chauffé pour assumer la promotion de cette réduction de risque qui n'existe pas. Eh bien, il faut avoir recours à des haut-parleurs. Et manifestement, David Kayat est un haut-parleur prestigieux.
Un médecin influent donc, qui selon Le Monde, sert aussi les intérêts de grandes entreprises comme Auchan ou Fleury Michon.
Il n'y aura pas de procès après la mort de Sarah Halimi, tuée en 2017 à Paris. La Cour de cassation a confirmé hier l'irresponsabilité pénale de son meurtrier, pris d'une bouffée délirante et hospitalisé depuis en psychiatrie. La famille de la victime envisage de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Une statue à l'effigie de Samuel Paty sera bien érigée dans l'enceinte du collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, là où ce professeur d'histoire-géo enseignait jusqu'à son assassinat il y a 6 mois. Assassinat par un jeune tchétchène qui lui reprochait d'avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. C'est la peintre et sculptrice Nassera Kenou, diplômée des Beaux-Arts de Besançon et connue pour ses bustes en bronze, qui a été choisie pour cet hommage à Samuel Paty et au métier d'enseignant.
Je pense que c'est quelqu'un qui était très très attaché aux valeurs de la République, comme je peux l'être, par exemple, à la laïcité, qui aimait ses élèves, qui aimait sa charge de professeur. C'est une charge très ancienne du professeur, de celui qui enseigne, qui emmène ses élèves. Comme un Camus, voilà, a pu être emmené aussi loin par son professeur, vous voyez. C'est un très très noble métier qui est de plus en plus difficile, et mon Dieu, jusqu'où ça peut aller maintenant. Oui, voilà, moi j'ai eu des profs exceptionnels. Ils ont sans doute contribué à ce que je suis aujourd'hui et je les en remercie.
Nassera Kenou avec Mathilde Bouquerel. Allez Nicolas, si je vous pose la question, qui c'est les plus forts?
C'est Inter.
Bonne réponse.
C'est les Verts,
allez,
pardon,
en deux les Verts. Mais ce club de foot mictique qui a vu passer Rocheteau, Platini et Batiston est à vendre. Les deux coprésidents l'ont annoncé publiquement sans plus de détails. Ce n'est pas la première fois que le club est à vendre, le club qui est actuellement 13e en Ligue 1, Jean-Pierre Blimeau.
En mai 2018, des discussions avaient avancé avec un fonds de pension américain, mais elles avaient tourné court au bout d'une dizaine de jours. Puis avec l'arrivée de Mediapro et de ses supposés 814 millions d'euros par an pour le foot français, il n'était plus aussi urgent de vendre. 3 ans après, revoici la SSE sur le marché. Bernard Caiezo et Roland Romeillet en parlent d'ailleurs publiquement pour la première fois dans leur lettre ouverte. Dans un contexte où les pressions sont nombreuses, les groupes de supporters par exemple multiplient les actes de défiance. L'un d'entre eux, l'Union des supporters stéphanois, a même publié une lettre ouverte le 26 mars. Jean-Guy Rioux en est le président.
Roland Romeillet, ça fait 5 ans qu'il nous dit « j'en ai marre du football actuel » et 5 ans après, il est toujours là. Alors, il est évident que les supporters se posent énormément de questions. Est-ce que c'est un actionnaire qui va rentrer au sein du club? Est-ce que c'est une vente du club? On n'a pas une réponse très précise.
Et les notables s'en mêlent. Le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, souhaite ouvertement un nouveau souffle à la tête du club et que les deux coprésidents jouent carte sur table. La question est aussi de savoir combien vaut le club, acheté 6 millions d'euros en 2004. Hier soir, Bernard Caiezo nous a confirmé qu'une banque d'affaires a été choisie pour recueillir les candidatures et vérifier leur solidité financière.
Et puis on connaît les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions. PSG, Manchester City et Chelsea, Real Madrid. Match aller les 27 et 28 avril, retour les 4 et 5 mai.
Merci Agnès Soubiran. Le zoom dans 3 minutes aujourd'hui sur la piste du variant amazonien au Brésil.